Frères et sœurs, les amis, après avoir longtemps marché et au milieu des vignes, tous ces dimanches que nous avons vécus, voilà, on peut imaginer dans le chapitre 22 que nous donne ce 28e dimanche de saint Matthieu, nous sommes conviés aux noces de son fils, nous dit le texte. Ça veut dire que le raisin a donc été engrangé et que bien la table est prête à ce que nous puissions goûter le bon vin. Donc en apparence, ces deux paraboles qui se suivent ne se ressemblent pas. Il y a la première qui est celle de l'invitation au repas des noces et celle du renvoi de l'homme qui ne portait pas la robe de noces. En fait, il y a un lien et nous allons rapidement essayer de le détecter. Un roi, donc, célébrait les noces de son fils. Bon, ce n'est pas n'importe quel roi, je crois qu'on a bien compris tout cela, puisque d'entrée de jeu, nous sommes prévenus qu'une fois de plus, ce texte nous parle du royaume des cieux. Un tout petit mot, même si nous l'avons souvent traité, de bien comprendre que l'alliance, vous savez, c'est le terme que l'on peut dire aussi pour l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Ancienne Alliance ou Nouvelle Alliance, que l'alliance entre Dieu et l'humanité s'accomplit bien sûr en la personne de Jésus-Christ et qui plus est encore ce Jésus-Christ qui a pris notre nature humaine. C'est ce que nous avons fêté dans quelques semaines à Noël, hein. Ce qui fait que le terme et le mot de noces qui revient 7 fois dans cette parabole veut donc bien dire que l'alliance est du type d'une nuptialité. La symbolique des noces ou de la noce n'est pas très habituelle dans notre langage chrétien aujourd'hui. Bon, peu importe. Mais pourtant, c'est dans ces termes-là que toute la Bible, je dis bien toute la Bible, parle du projet de Dieu avec l'humanité. Depuis les livres d'Isaïe jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, en passant par le Cantique des Cantiques, tous les livres de sagesse, pour n'en citer que quelques-uns, l'amour de Dieu pour l'humanité est décrit en termes d'amour conjugal. Et c'est bien pour cela que quand saint Paul parle du mariage, il dit « c'est la meilleure image de la relation de Dieu avec l'humanité, hein, et l'humanité tout entière, c'est-à-dire l'universalité ». Bon, je n'insiste pas davantage sur ce thème des noces, qui est un thème très important, dont je rappelle qu'il est présent dans toute l'Écriture sainte, dans l'ensemble de la Bible, et que c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre, puisque c'est de cette manière-là que nous est délivré le message de l'amour du Christ pour nous, sous le thème des noces, bien sûr. Ça, c'est le premier point de notre rapide méditation. Alors, nous voyons bien que tous les invités trouvent des prétextes plus ou moins valables pour ne pas répondre à l'invitation. Eh bien, cela, c'est la symbolique de tout ce que nous allons trouver également dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire tout l'échec apparent de la prédication de tous ceux qui nous ont précédés. C'est le même scénario que l'on rencontre chaque fois que saint Paul, par exemple, va aborder une nouvelle ville. Paul se rend d'abord à la synagogue et commence par annoncer, nous le savons, aux Juifs que Jésus est le Messie attendu. Alors il y en a certains qui le croient, d'autres qui ne le croient pas. Et c'est ainsi que partout où Paul est passé, où Pierre également est passé, eh bien on a trouvé des païens qui devenaient chrétiens et d'autres qui refusaient de l'être. Des juifs qui se sont laissés convaincre, en un premier temps, finissent par prendre peur et chasse Paul. Mais on voit très bien que ce n'est pas parce que les premiers apôtres ont été chassés que la parole de Dieu ne fait pas son œuvre, bien sûr. Hein? Donc, à la limite, que tous ces invités refusent la proposition de participer aux noces du fils de ce roi, eh bien, ne nous étonne pas, c'est ce qui est décrit dans l'ensemble aussi du Nouveau Testament. Certains païens se sont convertis au christianisme, d'autres ont refusé et ont chassé, bien évidemment, ceux qui les invitaient à adhérer au Christ. Par contre, la deuxième parabole, cet homme invité de la dernière heure qui n'a pas l'habit de noces. Donc si le texte, les choses sont quand même bien simples également, si le texte nous dit qu'il y a un homme qui n'a pas revêtu le vêtement de noces, si le texte dit un homme, ça veut dire que tous les autres avaient revêtu le vêtement de noces, bien évidemment. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Alors, le texte lui dit bien, le roi va le chasser. Alors, cela ne signifie certainement pas que il lui fallait à cet homme satisfaire à une exigence de comportement que le vêtement de noces pourrait symboliser. Autrement dit, et nous l'avons traité il y a quelques dimanches, un mérite quelconque. Parce que dès qu'on parle de mérite, on dénature la relation avec Dieu. On dénature la grâce de Dieu qui, par définition, est gratuite. Avec Dieu, il n'y a pas de conditions à remplir. Alors, pour essayer de comprendre cette histoire de cet homme qui est exclu, je pense que le piège, ce serait de focaliser notre esprit, notre attention sur l'unique exclu, mais de plutôt regarder la multitude qui entre dans la salle du festin des noces. Ils ont tous revêtu la robe nuptiale, et nous le savons dans le vocabulaire du Nouveau Testament, cette robe nuptiale, c'est la robe des baptisés. Du reste, de bien comprendre, pour revenir rapidement au thème des noces dont je vous ai parlé au début de la première méditation, c'est que la robe baptismale, la robe des enfants que l'on baptise, symbolise une robe de mariée. Ça veut donc bien dire que la personne qui est baptisée entre dans une nuptialité, c'est-à-dire dans une alliance du type d'une nuptialité. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, un chant que l'on peut prendre, bien sûr, au moment du baptême. Donc, c'est la robe de noces qu'il faut porter. Ce n'est pas celle de nos supposés mérites. C'est la robe du Christ, la robe du baptême. La robe du Christ lui-même, c'est le revêtir, comme dit saint Paul. Ou, pour prendre une autre image, c'est être greffé sur lui, ne faire qu'un avec le Christ. Donc, quant à cet homme qui ne la portait pas, ce qui est très révélateur, c'est son silence. Son silence est interprété comme un refus de dialogue. À la question « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Ben, au lieu de garder le silence, il aurait fallu tout simplement à cet homme de dire « Seigneur, je compte sur toi pour que tu me la remettes, pour que tu me la donnes. » Tout simplement, c'est-à-dire un cœur ouvert et un cœur prêt à découvrir la richesse de tous ceux qui vont revêtir le Christ. le jour de leur baptême. Amen.